Écho des colonies, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et bon début de semaine. L'équipe de Écho d'économie est là pour vous donner la température économique du pays. Et c'est Berry Franklin Luchaka qui nous fournit les nouvelles.
Les prix des denrées alimentaires venant de l'est du pays ont pris de l'ascenseur à Kisangani suite à l'écroulement du pont Epulu à environ 460 km à l'est de Kisangani. Nous en parlons d'ailleurs tout à l'heure avec Godlib Omondo. Et puis, ça fait 10 ans jour pour jour que la MONUC s'est installée en République démocratique du Congo. Est-ce que cette présence a contribué à l'amélioration du tissu économique de la RDC 10 ans après? Daniel Tabinzoli nous répond dans la deuxième partie de cette émission.
Ultimatum des entreprises de télécommunications à leurs abonnés pour l'identification obligatoire expire aujourd'hui. Nous recevons dans la seconde partie de cette émission Bob Mutumba, président du secteur des télécommunications à la Fédération des entreprises du Congo. D'abord, un tour du pays au Bas-Congo. Le prix du sac des ciments est revu à la baisse.
Effectivement, Jocelyne, c'est depuis plus d'une semaine. À Matadi, il est passé de 19 à 16 dollars et à Mwanda de 20 à 14 dollars, pratiquement le prix fixé par le ministère de l'économie nationale. Alexandre Massissa, président de la FEC Mwanda, estime que c'est la retombée de la décision d'exonération de certaines taxes sur le ciment importé prise par le gouvernement au début de ce mois. Plus de détails dans la bonne nouvelle économique. Demain matin.
Une cimenterie chinoise propose un contrat de partenariat à la cimenterie de Louboudi au Katanga.
Depuis quelques jours, les responsables de la Cimoncat examinent ce contrat que propose la cimenterie chinoise dénommée CDMS. Selon ses responsables, une fois que ce contrat est signé, la Cimoncat pourra acquérir du matériel moderne pour la relance de sa production. Reste que les deux actionnaires de la Cimoncat, à savoir la GKMine et le groupe Forest, appuient ces démarches. Pendant ce temps, sur place à Louboudi, 5 wagons contenant de la scorie pour la fabrication du ciment traînent encore à la gare de la SNCC Louboudi depuis près de 2 semaines.
Hydroforce doit revoir à la baisse la tarification de l'énergie électrique au Kasaï oriental.
C'est le ministre de l'économie qui le dit et cela fait suite aux plaintes des habitants de Mbujimayi. Hydroforce est une entreprise privée appartenant à la NIBA qui commercialise l'énergie du barrage de Tiala. Cette société privée vend le kilowattheure à plus de 15 centimes, mais n'a toujours pas résolu les problèmes des difficultés d'approvisionnement en énergie électrique. Notons que la SNEL, la société d'État qui est en difficulté de fonctionnement en Mbujimayi, faute de barrage, vend son énergie électrique à 11 centimes.
Et l'énergie thermique, Berry, certains changements sont désormais formels dans l'exploitation industrielle de l'or.
C'est l'administrateur délégué général de l'Office des mines d'or de Kilomoto qui l'a déclaré en marge de son séjour à Bunia. Parmi ces changements, on note la cession de la concession 39 de l'Okimo à Ouassa dans le district du Haut-Ouélé à la nouvelle compagnie minière Randgold. Cette concession a été exploitée par la société Bosun.
La DG de la RVA répond à la délégation syndicale section Kisangani.
Jean Assis demande aux agents d'être patients car les arriérés de salaire sont en train d'être épongés au fur et à mesure dans toutes les entités. La délégation syndicale de la RVA Kisangani a accordé depuis le week-end dernier un moratoire de 5 jours aux autorités nationales de cette régie afin de trouver une solution à leurs revendications salariales. Jean Assis demande aux travailleurs de faire confiance aux commandants qui négocient avec eux pour la poursuite du travail car, souligne-t-il, en cas de non-respect des procédures, les lois du pays en la matière seront appliquées.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le coup de fil de ce soir se dirige vers Kisangani où les prix des denrées alimentaires venant de l'est du pays ont pris de l'ascenseur. Godlib Omondo, vous êtes en ligne. Qu'est-ce qui a occasionné cette hausse des prix?
Eh bien, Jocelyne, c'est suite à l'écroulement du pont Epulu à environ 460 km à l'est de Kisangani et les conséquences liées à cet écroulement sont déjà visibles sur les différents marchés de la ville de Kisangani. Comme vous venez de le dire, les prix de certains denrées alimentaires ont presque doublé. À titre d'exemple, un gobelet de haricots qui se vendait il y a moins d'une semaine à 450 francs congolais revient aujourd'hui à 800 francs. Un kilo de pommes de terre de 700 francs se vend à 1300 francs congolais et 1 kg de poisson salé de 4 500 francs congolais revient aujourd'hui à 9 000 et ces articles se font de plus en plus rares. Certains dépôts de haricots et aussi des poissons salés ont subitement fermé ce lundi. Les femmes vendeuses de ces denrées alimentaires crient déjà à la spéculation par certains commerçants. Une autre conséquence en vue sera peut-être la diminution de la production de l'agroalimentaire Kisangani qui approvisionne depuis la réouverture de la route de la nationale numéro 4, les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que l'Ituri.
Et cet écroulement date de quand, Godelieve?
C'est depuis mardi dernier seulement, donc les dépôts ne sont pas vides, mais les commerçants ont tendance à refuser de vendre pour revendre à plus cher après. Et ce lundi, par exemple, un seul véhicule transportant des sacs d'haricots est arrivé dans la ville, alors qu'en temps normal, on y accueille une cinquantaine. Selon le conducteur du véhicule arrivé, il fallait faire traverser les sacs d'haricots par pirogue et laisser les véhicules sur l'autre rive et prendre encore un autre de l'autre côté pour arriver à Kisangani. À ce charge s'ajoutent les tracasseries des policiers et les exigences de gardiens de parc installés dans ces lieux. Une colonne de plus de 50 camions pleins de produits vipés traîne encore de l'autre côté de Mombasa.
Merci beaucoup, Godelieve Omondo, pour cette information. Bonne soirée à Kisangani.
Merci.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, le Gabon n'acceptera plus d'exploitation pétrolière déficitaire à la société gabonaise de raffinage.
C'est le Premier ministre qui l'a affirmé la semaine dernière lors de son allocution sur la réforme du secteur pétrolier. Cette situation particulière fait que les revenus pétroliers servent à alimenter le budget de l'État d'environ 2/3, à assurer les ressources d'investissement public et à servir à la consommation.
Merci beaucoup pour cette information internationale. Voici la deuxième partie de Écho d'économie.
Écho d'économie, le dossier.
Novembre 99, novembre 2009, voici aujourd'hui 10 ans que s'installait la mission d'observation de Nations Unies en RDC, la MONUC en sigle. La mission est arrivée dans un contexte de conflit politique et d'une détérioration de l'économie. Est-ce que 10 ans après, la MONUC a contribué à l'amélioration de ces tissus économiques de la RDC? Daniel Tambizoni, vous avez réalisé un dossier sur ces 10 ans de la MONUC. La MONUC est considérée comme la plus importante de toute l'histoire des missions de maintien de paix de l'ONU.
Les statistiques des Nations Unies à ce sujet sont claires. La MONUC emploie aujourd'hui plus de 22 000 personnes, parmi lesquelles 2 154 Congolais civils, plus de 16 608 soldats, 704 observateurs militaires et 1086 policiers expatriés. Son budget se chiffre aujourd'hui à plus d'un milliard 242 millions de dollars, ce qui fait qu'en termes de ressources humaines et en termes de ressources financières, la MONUC est la plus importante mission de maintien de paix des Nations Unies.
Daniel, l'effectif du personnel national de la MONUC est des lois inférieures aux expatriés. Pensez-vous que ces budgets, importants soient-ils, aient vraiment profité à l'amélioration de l'économie congolaise?
Avant d'en arriver là, Jocelyne, vous savez que la croissance économique est tributaire de la paix et la sécurité. Et à ce sujet-là, la MONUC a su donner et continue à donner sa contribution quant à ce. Vous l'avez dit au début, Jocelyne, et c'est ce que nous avait également dit la chargée des affaires économiques de la MONUC. La présence de la MONUC a encouragé les bailleurs de fonds internationaux, à l'instar de la Banque mondiale et du FMI, qui avaient repris la coopération avec la RDC en 2001, soit 2 ans après l'installation de la mission en RDC. Quant à savoir en quoi les différents budgets de la MONUC ont contribué à l'économie de la RDC, Mme Laure Nassou, chargée des affaires économiques de la MONUC, répond.
Les Congolais, ils sont nombreux qui travaillent dans la mission, pas simplement à Kinshasa, il faut penser à tous ceux qui sont dans les provinces, et où la MONUC est vraiment un employeur important, et non seulement ça, les gens qui travaillent pour la MONUC et qui sont congolais ont des familles, et une famille bien souvent élargie. Maintenant, concernant les internationaux, donc les expatriés, effectivement, la présence au sein de la RDC a grandement contribué au développement économique du pays. Alors, vous allez me dire comment ? le boom immobilier qu'on peut constater à Kinshasa, mais pas seulement à Kinshasa, Goma aussi, dans d'autres provinces, où la présence des internationaux, des expatriés, a aussi permis de développer de l'emploi. Regardez un certain nombre de magasins qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, ici à Kinshasa. Le secteur bancaire, parce qu'ils sont présents, et comme les Congolais, ils ouvrent des comptes en banque.
Laure Niassou a parlé d'une forte demande dans le domaine de l'immobilier, c'est vrai, mais cela n'a pas été toute rose, Daniel.
Pour le service des affaires économiques de la MONUC, le personnel, tant national qu'international, est réparti sur toute l'étendue de la RDC. Ils se nourrissent de produits locaux, ils paient les loyers. Et pour ceux résidents à Kinshasa, ils sont soit à la Gombe, à Macampagne, à Montfleury, des quartiers où le loyer est d'au moins 1000 dollars américains le mois. Les locaux que la MONUC loue, par exemple, à Kinshasa, Congo Bâtiment, le quartier général même où elle est installée, du texte, si j'en passe, ces locaux occupés en province sont tous payants et cette forte demande a incité même les Congolais à construire pour les uns et réhabiliter leurs maisons pour les autres. Le boom immobilier qui a commencé depuis le temps est encore visible. Ça n'a pas été rose pour tout le monde, c'est vrai, parce que le loyer avait fortement augmenté. Et à ce sujet, écoutons encore une fois Madame Niassou, chargée des affaires économiques de la MONUC.
Il faut être honnête, je crois qu'il faut dire les choses. La présence de la MONUC, ça a aussi créé une bulle spéculative, mais simplement parce que le marché de l'immobilier n'était pas suffisamment développé et aussi les réglementations, les prix ne sont pas pour autant contrôlés.
La MONUC dispose aussi d'un charroi automobile et d'une aéronautique toujours mobile, Daniel.
C'est vrai, charroi automobile, aéronautique civile et autres réalisations qui sont à la fois des réalisations sociales et économiques, Jocelyne. Mais en tout cas, pour le moment, je préfère qu'on en parle demain et ce sera alors avec les analyses des Congolais qui vivent avec la MONUC il y a aujourd'hui 10 ans.
Merci beaucoup, Daniel Tanguizoni, pour ces dossiers. À demain.
À suivre demain, Jocelyne.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Bob Ntumba, président du secteur des télécoms à la Fédération des entreprises du Congo. Bob Ntumba, l'ultimatum des sociétés de télécommunications à leurs abonnés pour l'identification obligatoire expire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passera à minuit pour ceux qui ne se sont pas enregistrés?
Il n'y aura pas de surprise. Le communiqué du gouvernement a été clair. Tous ceux qui ne sont pas enregistrés seront radiés des listes des abonnés de téléphonie cellulaire.
Et donc, vous êtes prêt à perdre tous ces abonnés qui ne sont pas enregistrés?
On va le perdre dans un premier temps, mais étant donné l'utilité dans la vie de tous les jours du téléphone, nous sommes sûrs qu'ils vont revenir, bien sûr, dans la précipitation, dès qu'ils auront les lignes bouchées. À ce moment-là, on va les récupérer volontiers.
Mais cela représente un manque à gagner énorme pour vous.
Vous savez, il n'y a pas de mesure sans conséquence, on ne peut pas demander de s'en passer les yeux. Il y a un impératif de souveraineté de l'État congolais et nous devons tous, les opérateurs comme la population, nous devons nous plier.
Oui, mais cela pourra représenter combien d'abonnés avez-vous aujourd'hui et combien se sont déjà fait enregistrer jusqu'à ce jour?
La question est pertinente, mais étant donné que le processus est en cours,
oui.
On n'a pas encore arrêté un bilan. On pourra peut-être arrêter le bilan une fois la date passée. Mais étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine opération de clôture des identifications et des enregistrements, on ne peut pas vous donner une date, ce qu'il faut recourir à tous les opérateurs pour avoir une idée globale.
Mais est-ce que vous avez l'assurance qu'il n'y a plus des cartes SIM qui se vendent d'ailleurs à la criée, à la cité?
Il faut donner une précision qui relève des mutations technologiques. Vous savez, pour le commun des mortels, le téléphone cellulaire est resté le même. Mais pour nous qui sommes de l'autre côté de la barrière, je veux vous rappeler que quand la première téléphonie cellulaire a existé au Congo, ça s'appelait Telecel. Telecel n'avait pas de carte SIM et n'avait pas de carte à gratter. Tous les abonnés étaient des abonnés post-paid, donc il fallait obligatoirement les enregistrer pour qu'à la fin du mois, à la fin de la période, on leur porte leur facture et on retire le paiement. Le système GSM, qui est le système actuel, c'est un système numérique qui est de grande consommation de masse. Mmh. Donc, dans sa structure, cette mutation technologique a modifié l'architecture de la distribution. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus distribuer au travers des intermédiaires, qui sont les superdealers et les dealers, mais alors que dans les pays d'Europe, chaque revendeur a un ordinateur connecté au réseau Internet, chez nous, malheureusement, c'est l'état général de l'économie. La majorité, si pas tous les distributeurs, ce sont les jeunes gens et les femmes que vous voyez le long de la route sur les tabourets, que nous appelons distributeurs. Alors, comment voulez-vous que, avec ces paramètres, on puisse faire ce qu'on appelle une transmission de données en temps réel?
Mais donc,
c'est l'idéal, mais il ne faut pas rêver.
Il ne faut pas rêver, donc on n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, on enregistre ceux qui sont déjà sur les réseaux, mais les futurs abonnés,
tout se fait manuellement, tout se transporte par les moyens de bord, parce que telle est la situation de l'économie de l'ensemble du pays, mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que dans tous les pays du monde, le gouvernement, pour asseoir son autorité et pour bien gérer la communauté, a besoin d'avoir les data rooms, c'est-à-dire l'ensemble des données sur la population, les pyramides de population, la composition de la population et le traçage des appels téléphoniques. C'est important pour la sécurité de tous les citoyens.
Bob Tumba, merci d'avoir répondu aux questions d'Éco d'économie. Vous êtes président du secteur des télécommunications à la Fédération des entreprises du Congo et c'est avec vous que nous terminons cette émission. Pour tous ceux qui veulent nous réécouter, allez sur internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.